Sefer Trei Asar, les 12 prophètes. On est dans Zecharia Navi. Eh oui, chapitre 5. Perek Hei Zecharia Navi. Alors, on avait d'ores et déjà expliqué la dernière fois, c'était pas la semaine dernière certes, mais la semaine d'avant, que Zecharia a une névoie très particulière parce que c'est une névoie de Mar'ot. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va lui montrer beaucoup de visions, de méchalim, de paraboles, et c'est ça qui va lui permettre, eh bien, d'appréhender le dévoilement divin. Et donc, quelle est cette névoie ici? Perek Hei. Va ashuv ve'essa enai ve'ere. Donc, il s'agit ici d'une nouvelle névoie. Ve'ine megila afa. Ah. On a une megila qui se lève dans le ciel. Vayomer elai ma ata roe. Va'omar. Ani roe megila afa. Orka esrim ba'ama. Ve'ochba. Je vois une Megillah qui fait 20 amot sur 10 amot. En d'autres termes, 10 mètres sur 5 mètres. C'est déjà de la bonne Megillah, ça. Ok ? Vayomer elai, zot a'ala ayotzet alpene kol ha'aretz. Qui colle à gonev mise kamoa nika, vechola nishba mise kamoa nika. Alors là, il va falloir qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que représente cette Megillah? Cette Megillah, c'est une Allah. Ron, vayomer elai, zot a Allah. Mazé Allah. Eh bien, les amis, Allah, on le retrouve ni plus ni moins que dans notre paracha de cette semaine. Lorsqu'on dit Allah, à quoi faisons-nous référence, les amis? Si on prend la paracha de cette semaine, paracha de Nas'o, alors évidemment, paracha de cette semaine pour les Israéliens, les Khulnikim ne nous ont pas encore rejoints, mais dans la paracha de Nas'o, on va nous dire la chose suivante. Je ne sais pas si vous connaissez cette paracha. Tac, 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 iné. Attends, je prends le verset. On va prendre le début. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Vayom vaydaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israel va'amarta aleihem ish ish ki tiste ishto u'ma'ala bo ma'al. Veshachav ish ota shichvat zera ve'ne'elam me'inei isha ve'nistera ve'i ve'nitma'a ve'ed ein ba ve'i lo nitpasa. Ve'avar alav ruach kin'a ve'kine et ishto ve'i nitma'a. או עבר עליו רוח קנאה וקנאה את אשתו והיא לא נטמע. והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, אסירית עייפה כמח שעורים לא יצוק עליו שמן, ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות הוא מנחת זיכרון מזכרת אבון. וויה דה קוואן פי רפרנס איסי, אבידמון, פרשת האישה הסוטה, והקריב אותה הכהן והעמידה לפני השם, ולקח הכהן ממים קדושים בכלי חרס, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. והעמיד הכהן אל האישה לפני השם, ופרה את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות היא, ביד הכהן יהיו מאמרים המערערים. והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב האיש תח, ואם לא שתית תומעה תחת אישך, הנקי ממאמרים המערערים האלה, ועד כי סטית תחת אישך וכי נטמאת, ויתן איש בך את שחופתו מבעלדי אישך. והשביע הכהן את האישה בשבועה, אהלה! ואמר הכהן לאישה, ייתן השם אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בתת השם את ירחך נופלת ואת בטנך צבא. Nous parlons donc ici de la fameuse histoire de l'Aïcha Sota. Vous comprenez que donc, si Akadosh Baruch Hu s'adresse à Zecharia, il lui dit « Vayomer elai zot a'Allah », ça veut dire que cette Megillah fait référence à la Sota. Mais attention, est-ce qu'il s'agit de la femme de Zecharia? Non. C'est qui est donc Sota? C'est qui est donc Sota? Klal Israël. Évidemment.
Klal Israël.
Bien sûr, vous avez raison. C'est le Klal Israël qui est Sota. Et oui, comme vous le savez, quand on regarde dans le livre de Shir HaShirim, eh bien, il fait référence ici de manière implicite que Am Israël est la Kala de Ribono Shel Olam. La Kala d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui, alors. Eh bien, à l'époque de Zecharia Hanavi, Makara. Makara, nous sommes Bagalout. Vagalout, c'est Avodah Zara. Avodah Zara, c'est Isha Sota. C'est-à-dire, c'est quoi la Sota? La Sota, c'est une femme qui soit a concrètement trompé, soit son mari la soupçonne de vouloir le tromper. Eh bien, Am Israël, Sheu Bechout Salaharetz Veoved Avodah Zara, c'est la même chose. C'est Keilou, on a trompé Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, Akadosh Baruch Hu vient dire Zot Ha'ala Ayotzet Alpene Kol Ha'aretz Ki Kol Ha'gonev Mize Kamo Anika Vechol Ha'nishba Mize Kamo Anika. Il y a deux grands problèmes dans la société de Zecharia, Gneva ve Shvuat Shav, qu'on prête serment avec le nom de Dieu pour mentir, et le vol. Ma Kesher. Et oui. Alors, il y avait certainement un problème concret dans la période de Zecharia où, effectivement, les Juifs avaient des problèmes de vol et des problèmes de Shvuat Shav. Mais si on y réfléchit plus loin, Mazé Gneva, quand on parle de Sota pour le Ham Israël, Avodah Zara Zé Gneva, c'est de la lumière d'Israël qui est volée. Ou alors, c'est nous qui volons la lumière des autres. Velachen Yeshvuat Shav. Il y a ici un serment qui est prêté et on utilise le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien oui, si tu vas faire de l'idolâtrie, tu vas prononcer le nom de Dieu en vain. Pourquoi est-ce qu'on nous donne cette névoie-là à ce moment-là? Ben parce que justement, le but du jeu, c'est de sortir de cette sotaïtitude et de revenir en Eretz Israël, de revenir vers Dieu. Otsetia neum Hashem tsevaot. Uva el bet ganav, vel bet nishba bishmil shaker, velane betoch beito, vekilatu, vet etzav, vet avanav. C'est-à-dire, je vais détruire sa maison. De quelle maison on parle? Mamlechet Israël, bet amigdash. On n'a même pas encore commencé à reconstruire. Nachon, Ini Zecharia nous parle déjà de Khurban Bayit Sheni. Alors qu'on est à peine au début de sa construction. Et on va voir que dans la réalité, ben Israël va vraiment se tourner vers la Avodah Zara. Vayetse amalach adover bi, vayomer elai, sana inecha ure'e, ma hayotzet hazot. Ma, tout d'un coup, le malach recommence à sortir, comme s'il s'agissait d'une nouvelle névoie. Et lui dit, ma yotzet azot. Ma, va omar maï. Je sais pas. Va yomer zot aeifa. Ha yotzet. Va yomer zot einam bechol aaretz. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une deuxième névoie, on nous dit, ze aeifa. Et c'est sur cette aeifa que se lèvent les yeux du monde entier. Mais c'est Efa. Efa, c'est un ustensile pour recevoir une mesure. Et on nous dit donc dans cette mesure-là, il y a quelque chose qui intéresse le monde entier. Sana enecha, et on te dit, zot einam bechol haaretz. Veine kikar oferet niset. Vezot isha achat. Yoshevet mitocha Efa. Attendez, on a donc une femme à l'intérieur de ce contenant, avec Kikar Ofaret. Kikar, c'est également une mesure, mais en poids. On a donc Kikar Ofaret, du plomb, qui est là, qui va donc fermer ce récipient. Vayomer, le malach, il répond, il dit... Zot Arisha. וישלך אותה אל תוך האיפה, וישלך את אבן האופרת על פיה. וכס כסיק את היסטואר. On voit donc un grand récipient, on voit une femme dedans, et on va jeter le couvercle dessus. Mazet. Alors je vous vois venir tout de suite. Il y a des gens qui viendront et qui diront « Ah, bah tu vois, la femme, c'est le mal !» Eh oui, quand Dieu il veut nous parler de quelque chose de pas bien, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente une femme. La femme est donc le mal incarné, Rabotai. Mouais. Non. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Et là, qu'est-ce que c'est ici, cette femme ? Eh bien, on est toujours dans le motif, dans l'idée de Avoda Zara. Avoda Zara, la Gemara nous dit, Mashal le ma dovar domé, ma ze Avoda Zara, ze ben adam nasui, qui va voir une autre femme. On parlait de la Sota tout à l'heure. C'est-à-dire que, et on nous dit, c'est pas parce qu'il va voir une autre femme qu'il aime plus forcément son autre femme, sa première femme. Aval, uzone tachat baala, tachat isha. En d'autres termes, mazé avodazara, c'est représenté ici par une femme pour montrer cette dimension de je vais tromper, je vais ailleurs. C'est pas que la femme, chas v'shalom, c'est la avodazara, loin de la chalila. Donc je veux aller ailleurs, je veux aller voir quelque chose d'autre. Eh bien on va te dire dans la névoie, bah tu vois ça, je vais l'enfermer. De quoi ça fait référence ? À quoi ça fait référence ? Eh bien les amis, nous sommes dans cette période du début du Second Temple. Et à l'époque du Second Temple, eh bien c'est à ce moment-là avec Ezra à Sofer, donc on est juste après Zecharia. Ezra à Sofer va venir et va détruire avec les Chachamim Yitzra de Avodah Zara. Et c'est ma'anien me'ot, parce que quand on regarde et qu'on demande au Talmud, ok, mais alors il s'est passé quoi ? C'est quoi l'histoire ? Eh bien, on nous dit qu'ils ont prié et qu'ils ont réussi à tuer le Yetzer de Avodah Zara. Mais à quoi ressemblait-il ? Eh bien, on nous dit là-bas dans la Gemara qu'il ressemblait à un lion de feu qui sortait du Kodesh à Kodashim. Et pour l'attraper, les Chachamim l'ont enfermé dans une boîte, dans un récipient, be'oferet, en plomb. Donc ici, le Navi est en train de nous dire tout simplement une névoie de ce qui va se passer, qu'il faut enfermer la Avodah Zara. Ve'lachen ha'oferet yalpia, elle ne peut plus parler, cette Avodah Zara. Elle ne peut plus émettre ses sons. En d'autres termes, la névoie de Beit Sheni, c'est la névoie de la victoire sur la Avodah Zara. C'est-à-dire, on sait que Beit Rishon, le premier temple, a été détruit à cause de Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Et effectivement, Beit Sheni, on n'a pas vraiment... On nous raconte pas que c'est à cause de la Avodah Zara qu'a été détruit Beit Sheni. On parle de Sinatrina, on parle de pas mal de choses pas cool, mais on peut dire qu'on n'est pas tombé Beit Sheni, Be Avodah Zara. C'est la fin de la Avodah Zara. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire mieux que ça. C'est même également le début de la fin de la Avodah Zara dans le monde entier. Et oui, il y a eu le christianisme. Alors, je vous vois venir, évidemment que le christianisme, c'est de la Avodah Zara. Bien sûr, aval, c'est beaucoup moins de la Avodah Zara que ce qu'il y avait avant. Que ce qu'il y avait dans le panthéon des différentes idolâtries de l'époque. Donc le christianisme, c'est évidemment pas cachère. Aval, c'est vachement moins pas cachère que ce qu'il y avait à l'époque du premier temple. Salam. Vayomer zot arisha vayashlech ota el toch haifa vayashlech et ha'even ha'oferet al piya. Vayesa enai vayere. On est toujours dans une autre névoie maintenant. Vous voyez des petites névoies comme ça de Zecharia. Va'esa enai va'ere. Ve'ine shtaim nashim yotzot ve'ruach biknafehem. Ve'lahenna kenafaim kekanefe achasida. Va'tis'ena et ha'efa ben ha'aretz u'ben ha'shamayim. Ma ze ha'sipour haze. À quoi ça nous fait penser ? Deux humanoïdes ici des femmes avec des ailes qui portent en l'air une boîte. À quoi ça fait référence, évidemment ? À Aaron Abrit. Aaron Abrit va à Krouvim. Mais à la Krouvim, mais à la Aaron, il y a deux humains. Alors, chez nous, c'est garçons et filles. Avec des Knafaim qui surélèvent la Aaron. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? On va dire, Iné, tirez ! Yesh, c'est domé, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Anaron, c'est nashim, c'est imaout, c'est afilou des ailes de chassida. Lama inikret chassida, nous dit la Gemara, ki osa chesed im chavrotea. C'est-à-dire que, à Avodazara, il osa arbe chesed le miche oved Avodazara. Elle lui donne énormément de choses. Yeshpo ivut gadol. Et donc, on est obligé de le faire partir. Faomar el amalach adoverbi. Anna hemma molichot et haefa. Où est-ce qu'elle l'emmène? Où est-ce qu'elle l'emmène? Vayomer elai, livnot la bait be'eretz shinhar, ve'uchan ve'unicha sham al mechunata. Ils emmènent la avodazara loin, là-bas, 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 là-bas. Eretz Shinar, c'est Babylone. Et il les emmène là-bas, et c'est là-bas qu'elle va être déposée. Ma Akavana. La Avodazara, quand Chazal ont détruit le Yitzra de Avodazara, c'est bien, ils ont détruit Yitzra de Avodazara. Aval. La Avodazara, elle les aura pour nous. Mais elle peut avoir un rôle à jouer pour les Goyim. Nous dit le Rambam, Avodazara, Zara le Israël, aval kshera le umot haolam. Alors ça peut être complètement interdit aussi pour eux, mais ils peuvent en faire quelque chose qui n'est pas pour eux interdit. Et c'est ce que vont dire par exemple, Shira, mange, Shav, que le christianisme c'est interdit pour nous. Mais est-ce que le christianisme est interdit pour les goyim? En fait, la question est de savoir, est-ce que les goïms ont une interdiction de faire ce qu'on appelle Avoda Zara Beshitouf? Mazé Avoda Zara Beshitouf, c'est que je crois en Dieu et en quelqu'un d'autre, en l'occurrence Jésus. Eh bien, c'est un débat à la rigue de savoir, est-ce que les goïms, nous on n'a pas le droit, c'est sûr, mais est-ce que les goïms, ils ont le droit de faire Avoda Zara Beshitouf? Dans tous les cas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vachement mieux que ce qu'il y avait avant. Et donc, la Torah nous dit ici que pour l'instant, il faut faire partir cette Avodah Zara de Eretz Israël. Aval, on va la déposer be Eretz Shinar. Shinar, Babylone, c'est la grande culture de l'époque. Bien que les Perses aient déjà pris le contrôle, puisqu'on est sous la domination perse, Shinar restait quand même, on va dire, le centre névralgique du Moyen-Orient à cette époque-là. Donc, on va faire sortir Avodah Zara, mais à Eretz. Vashuv ve'esa enai ve'er'e. Ve'ine. Arba markavot yotzot miben shenei he'arim. Ve'arim hare nechoshet. Wow. Arba markavot, quatre chars, et ve'ane arba markavot yotzot miben shenei he'arim. Ils sortent parmi deux montagnes. Veharim hare nechoshet. Ma ze ha nechoshet aze? À quoi ce nechoshet fait-il référence? On vient de dire qu'il faut se séparer de Avodah Zara min haaretz. D'accord? Et iné, le nechoshet est en train de faire son entrée ba'aretz. Ma ze nechoshet? Eh bien, quand on regarde le Sefer Daniel avec la névoie de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel lui explique qu'il voit une grande pesel là-bas, une grande statue, chez Rocho Mizahav, ve la tête elle est en or, le tronc est en argent, les parties intimes en nechoshet, en cuivre, et les pieds sont en argile et en fer. Et Daniel lui explique que la tête, c'est lui, c'est Babylone, que l'argent, c'est la malchut qui viendra après lui, c'est donc la Perse, et que, eh bien, la Nechoshet, le, comment on dit, le, oh là là, j'ai dit tout à l'heure, Nechoshet, c'est...
Le cuivre.
Le cuivre, merci. Le cuivre, c'est la Grèce. Et après, Cheres ou Barzel, l'argile et le fer, c'est Rome. Mais donc, ça veut dire qu'ici, on va nous parler de quoi? De la Grèce. Pamerkava Rishona Susim Adumim. Ou Pamerkava Shenia Ashenitra Susim Shchorim. Ou Pamerkava Shlishit Susim Levanim. Ou Pamerkava Revi'it Susim Berudim Amutsim. Donc il voit quatre chars. Et dans chaque char, il y a des chevaux qui sont d'une autre couleur. Le premier, c'est de, ils sont rouges. Le deuxième, noir. Le troisième, blanc. Et le quatrième, une couleur particulière. Ils sont un peu marrons comme ça. Mais tachetés. Va'an va'omar el amalach adoverbi. Ma'ele adoni. Ma'ze. Ça, c'est une voix pas commune. Va'an amalach va'yomar el aitira. Ele ארבע רוחות השמיים היוצאות מתייצב אל אדון כל הארץ. Les quatre vents de la terre, ארבע רוחות השמיים, enfin du ciel, aux quatre vents, de quoi on parle? העולם כולו. מתייצב אל אדון כל הארץ. Donc c'est le monde entier qui se présente devant le maître du monde, בארץ ישראל. De qui fait-on référence? Et bien comme je vous l'ai dit, on fait référence à la Grèce. Mamlechet Yavan. Eh oui, 100 ans à peine après Zecharia Navi, va arriver Alexandre le Grand pour conquérir l'Empire perse. Asher ba asusim ashechorim yotzim el eretz tzafon. Ve'alevanim yotzim el achareem. והברודים יצאו אל ארץ התימן והמוצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ ויאמר לכו התהלכו בארץ והתהלכנה בארץ. De quoi on parle? מה זה הסוסים השחורים? זה היוצאים אל הצפון. Pourquoi שחור זה צפון? Parce que au nord il y a pas beaucoup de soleil, donc זה שחור. אחרי זה הלבנים יצאו אחריהם. מה זה הלבנים? Mazé à Levanim. Bah, deux secondes. Mazé à Beroudim. À Beroudim, c'est le sud. C'est Eretz HaTeiman. Donc, Mazé à Levanim, c'est à Mizrach ou c'est à Maharav. En l'occurrence, c'est à Maharav. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que l'armée qui va arriver, parce que, oui, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais Soussim Batanach, c'est Machal la Milchama. C'est-à-dire que les gens, ils ne se baladent pas à d'autres chevals pour faire des balades. Le cheval, à l'époque du Tanakh, est utilisé uniquement pour faire la guerre. Donc on te dit, Soussim, Amilchama, Tavo Mitzafon, Mimaharav, ou Midarom. Et ce sont les trois kivunim par lesquels l'armée de Alexandre est arrivée. Vaizak oti, vaizak tira, vaizak oti, vaidaber elai lemor. Ré, ayotzim el eretz safon. Henichu et ruchi be eretz safon. Laissez-moi tranquille, ceux qui sont dans le nord. Laissez-moi tranquille. Pourquoi est-ce que le Navi a besoin de dire ça? Eh bien, tout simplement parce que, Uyodea, il sait, le prophète, ce qui est marqué dans le livre de Jérémie. Shemitzafon tipatach ara'a. C'est-à-dire que les dégâts causés à Israël viennent toujours par Tzad Tzafon. Regarde, entre parenthèses, c'est au niveau topographique, c'est comme ça. Le seul endroit par lequel on peut attaquer Israël, c'est Mitzad Tzafon. Pour être exact, par le Golan, par le couloir qui est dressé entre le mont Bental et le mont Avital. Là, il y a la place de faire passer une armée. Toutes les armées de l'Antiquité jusqu'aux armées syriennes sont passées par là-bas. Parce que tout le reste de la région, c'est des montagnes. Le nord, c'est impraticable. Le Liban, c'est impraticable de passer par le Liban. La mer, c'est la mer. Et le sud, c'est le désert. Ça va? Vaï devar Hashem elai les morts. Dieu reparle maintenant à Zechariah. La koar met a gola. Maintenant qu'on a fini de parler des marot, Dieu lui a montré les marot, qui lui explique que donc, il va falloir sortir d'exil, qu'il va falloir sortir la Vodazara d'exil, et que, il va falloir faire attention aux dangers qui vont arriver maintenant. À ce moment-là, vayei dvar Hashem elai les morts. La koar met a gola, מחלדאי ומעט טוביה ומעט ידעיה ובאת אתה ביום ההוא ובאת בית יושיה בן צפניה אשר באו מבבל. Donc nous dit le Navi, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit d'aller voir les élites qui sont arrivées de Babylone. Les élites qui sont arrivées de Babylone, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir litfos shilton ve'anaga, les riches, ve'la karta kesef ve'zahav ve'asita atarot ve'samta berosh Yehoshua ben Yehotzadak ha'kohen gadol. Tu vas introniser le prochain, le nouveau Kohen Gadol. Oui, on vient de parler de l'inauguration du Beit Hamikdash. On avait parlé avec Haggai. Donc maintenant, il faut introniser Yehotzadak Kohen Agadol. Et donc, tu vas faire participer les riches. Tu vas faire participer les riches de Babylone. C'est le meilleur moyen pour faire participer les gens de la Gola au retour d'Israël. Eh oui. Le baron de Rothschild, il veut aider. Mais si tu lui dis, tu mets pas ton nom sur toutes les villes que tu vas créer, machin, pas sûr qu'il va donner l'argent. Pas sûr qu'il va se sentir impliqué. Donc là, tu vas prendre l'argent chez les riches. Tu vas les impliquer dedans. Alors, ben, c'est-à-dire, Yehotzadak HaKohen HaGadol, c'est bon. La Keuna, elle est mise en place. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque la Malchut. Et pour l'instant, la Malchut, eh ben, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas entre nos mains. Pour l'instant, la Malchut, elle est entre les mains de la Perse. Ah ah. Ve'amarta elav lemor. ליהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול. כה אמר השם צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח, ובנה את היכל השם. מי זה? הצמח הזה. C'est qui ce צמח qui est censé construire היכל השם? מי זה? Et bien parce qu'on a déjà étudié Zecharia, Haggai avant Zecharia, eh bien, vous savez. C'est qui cet homme qui est censé reconstruire le Beit Hamikdash? Echal Hashem. C'est Zerubbabel. Évidemment. Évidemment. Zerubbabel ben Shealtiel. Alors, pourquoi ici il est appelé Tzemach? Pourquoi on ne dit pas tout simplement Zerubbabel ben Shealtiel? Pourquoi on lui donne un surnom? Sympathique en soi, mais un surnom. Ine ish tzemach shemo. Eh bien, les amis, c'est tout simplement parce que là aussi, on a lu les prophètes d'avant. Et tzemach, d'après Yirmiyahu Hanavi, c'est le nom du Mashiach. Vous savez, le Mashiach, il a plein de noms dans le Tanakh. Un de ses noms, c'est tzemach. Tzemach, pour nous expliquer que la dimension messianique n'est pas quelque chose du domaine du magique, du pouf, du ça va tout d'un coup arriver. Et là, la dimension messianique, ça prend du temps. Zerubbabel ben Shealtiel avait toutes les qualités pour être le Mashiach. Donc on l'appelle Tzemach. Ah oui, mais dans les faits, nous on sait que ça va pas se passer. On sait que Zerubbabel, il va pas réussir. Mais ça veut dire, il va pas réussir. Mais il avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Peut-être que l'époque n'était pas la bonne, peut-être que plein de choses. Mais le fait est que c'est de cela qu'on doit s'inspirer pour, dans notre génération, réussir. Ve'hu yivne et echal Hashem, והוא יישא הוד, וישב ומשל משילות, מלכות, על כיסאו. והיה כהן על כיסאו, והצד שלום תהיה בין שניהם. Donc, on a besoin de ces deux têtes que sont d'un côté la Kehuna et de l'autre côté la Malchut. Voilà les deux dimensions qu'on a besoin pour eh bien, dévoiler le projet divin. Aujourd'hui, Baruch HaShem, on a la Malchut. Mais on n'a pas encore Echal HaShem. On n'a pas encore la Kehuna. Au boulot. Vatarot tiye lechelem ou letuvia. ולדעיה ולכן בן צפניה לזיכרון בהיכל השם. On va mettre, vous inquiétez pas, pour tous ceux qui ont aidé dans les faits à la reconstruction, on va leur mettre des plaques dans tout le Echal Hashem, a été généreusement donné par notre bien-aimé, blablabla, blablabla. Comme quoi vous voyez que les plaques pour les donateurs, c'est pas nouveau. Il y avait déjà des plaques de donateurs dans le Beth Amikdash. C'est bien. Urechokim yavou, ubanu echal Hashem, vidatem ki Hashem tzevaot shelachani alechem, vayaim shamoa tishmeun bekol Hashem Elohechem. Pourquoi urechokim yavou? Ah ben parce que tu sais comment ça marche. Quand il y a un influenceur qui a commencé, qui s'est dit, Yalla, moi j'aide Israël, et il a publié. Après, il y a un autre qui dit, attends, pourquoi il n'y a que lui? Moi aussi, je vais y aller. Et après, il y en a un autre qui dit. Et puis, quand on voit qu'il y a tous les grands financeurs qui ont donné, eh ben, on ouvre la campagne de dons aussi, aux plus petites sommes. Et tout le monde se met à donner. Et, verchokim yavou. Uvanu be'echal Hashem, vidatem ki Hashem tzevaot shelachani alechem, והיה אם שמוע תשמעון בכל השם אלוהיכם. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de ce que je viens de dire? Comme exemple de gens qui viennent de loin et qui décident de donner pour Echal Hashem. Est-ce que vous avez un exemple? Il y a quelque chose qui vous vient en esprit, en tête comme ça? Stam kacha? Yesh? Ein? Pas d'exemple? Ben moi, je vais vous donner un exemple. Il y a une dame. Oui, Hana, tu veux donner un exemple?
Don Garcia.
Pardon?
Garcia, il y a Don Safra.
Qui?
Safra.
Ah, Safra, oui, bien sûr. Bien sûr, Don Safra. Ça, c'est un très bon exemple. Actuel. Tu donnes un exemple actuel. Mais tu as donné un autre nom avant. Non?
Grazia.
Ah, Dona Grazia, bien sûr. Bien sûr, Dona Grazia, bien évidemment. Maintenant, moi, je voudrais que vous me donniez un exemple qui fait directement écho au livre de Zecharia. C'est-à-dire un exemple qui va se réaliser, pas à l'époque de Zecharia, mais pas trop loin non plus.
C'était un amour.
Qui? Qui?
C'était un ami qui était très riche.
De qui tu parles?
C'est pour...
Tous les Nevi'im, ils sont riches, sinon ils ne sont pas Nevi'im.
Oui, c'est vrai, il faut être riche.
Alors attendez, les amis, il y a une dame assez incroyable, qui est reine de son royaume en Asie mineure. Son royaume s'appelle Adiaben. Adiaben. Et elle-même s'appelle la reine Hélène d'Adiaben. Et cette reine Hélène d'Adiaben, qui n'est pas juive, va entendre parler de la grandeur du Beth Amikdash et elle décide de venir au Rechokim Yavou. Elle vient au Beth Amikdash. Et elle est subjuguée par la beauté du Beth Amikdash, mais pas seulement de la beauté du Beth Amikdash, mais de la Chochma et de la justesse d'Israël. Et bien, ni une ni deux, elle décide de se convertir au judaïsme. Voilà. Une reine d'un pays d'Europe centrale, d'Asie mineure, c'est ça, qui pas d'Europe centrale, d'Asie mineure, qui décide de se convertir au judaïsme. Elle se convertit pas chez les libéraux, hein, attention, hein. Elle se convertit orthodoxe. Tellement orthodoxe d'ailleurs, que finalement, eh bien, on va parler d'elle dans la Guémara comme étant un modèle de quelqu'un qui écoute les Chachamim. Il y a tout un débat dans la Guémara, dans le traité de Souka, parce qu'elle a fait une Souka magnifique et énorme, qui dépasse les dimensions d'une Souka normale. Alors on se pose la question, mais comment ça se fait qu'elle a fait une Souka plus grande que la Halakha permet, alors que normalement elle fait tout selon les rabbins. Et donc la Guémara va nous expliquer comment c'est possible que les rabbins lui ont permis d'eux. Donc c'est une femme qui est convertie au judaïsme, qui est tzadika. Lorsqu'elle arrive au Beit HaMikdash, alors au début, vous savez comment c'est. La première fois, t'es subjugué. La deuxième fois, t'es subjugué. Ah, tu te rappelles la première fois que t'étais au Beit HaMikdash. Mais à partir de la troisième, quatrième fois, tu commences à voir les problèmes. Au début, tu fais pas attention. Mais une fois que t'as l'habitude de venir, tu commences à regarder et il y a des choses qui sautent aux yeux, que tu voyais pas en mode touriste, mais que maintenant tu vois. Par exemple, Hélène, tu vas aller faire dodo? Oui? On va mettre sa pyjama. Hélène, elle se rend compte que le matin, ouvrez. Hop là, tu te rends. Voilà. Hélène, elle se rend compte que tous les matins, on ouvre les portes du Beit HaMikdash et que dès que le premier rayon de soleil rentre dans la Hazara, eh bien, on commence Korban HaTamid Shel Shachar. Le problème, c'est que, comme vous le savez, le Beit HaMikdash, il va d'est en ouest. Le Kodesh HaKodashim, il est à l'ouest. Et donc, pour voir le premier rayon du soleil, pour savoir quand c'est le début de la Avoda, eh bien, le matin, tout le monde se tournait, et donc tournait le dos au Kodesh HaKodashim. Elle dit, c'est pas Kavod. Pas Kavod. Et donc, elle va décider de faire un don au Beit HaMikdash. Elle va donner une grappe, comme ça, pas une grappe, une espèce de grand chandelier comme ça en or, qu'avec les ingénieurs on va calculer exactement où il faut l'accrocher à l'entrée de la porte du Echal, de là où les Kohanim ils peuvent rentrer, et en bas de ce chandelier il y a un énorme diamant et qui est disposé à l'endroit exact que lorsque les portes du Beit HaMikdash s'ouvrent et que le premier rayon rentre dans le Beit HaMikdash, ça arrive et ça tape sur le diamant qui reflète toute sa lumière dans toute la Hazara. Et donc, les gens n'avaient plus besoin de se tourner, de tourner le dos au Kodesh HaKodashim pour savoir quand ça commençait. Dès que la Hazara était éclairée de mille feux par ce reflet du diamant, eh bien, les gens savaient que c'était le début de la Avoda. Ok? Eh bien, cette reine, Hélène, c'est l'exemple même de Urichokim Yavou. Ils viendront de loin et ils voudront s'attacher au Beit HaMikdash. S'attacher à la Géoula d'Israël. Alors la fin de l'histoire, elle est malheureusement beaucoup moins fun, puisque finalement Hélène va mourir. Son fils, le roi Mounbaz, lui aussi juif, lui aussi très sympathique, décide d'enterrer sa maman. Sa maman a acheté un terrain à Jérusalem pour se faire enterrer. Et on l'enterre dans la plus belle tradition des aristocrates d'il y a 2000 ans, dans un sarcophage. Alors pas un sarcophage à la mode égyptienne, mais les sarcophages mortuaires, c'était très courant à l'époque romaine également. C'est-à-dire, et on l'entend dans un sarcophage, dans le terrain qu'elle a acheté. Dans ce terrain, c'est pas un terrain personnel. C'est le terrain pour, on va dire, les gens qui ont de quoi se payer ce terrain. Parce que sont enterrés avec elle des personnages qui étaient très connus à Jérusalem à l'époque de la fin du Second Temple, puisqu'il s'agissait de Kalba Savoie, le beau-père de Rabbi Akiva, l'homme le plus riche de tout le Moyen-Orient, et de Nakhdimon Ben Gurion, celui qui a fait le miracle du soleil qui est revenu alors que il avait fait un emprunt à un goy pour de l'eau, et finalement il devait lui rendre à une telle date, et la date était arrivée, et l'eau n'était pas tombée, et le goy lui dit, tu vois, tu dois me rendre, mais non, le jour n'est pas terminé, le soleil est revenu. C'est-à-dire, eh bien, le problème, c'est que ce territoire, ce terrain dans lequel est enterré Hélène et Kalba Savoie et Nakhdimon Ben Gurion et certainement d'autres, a été tout simplement volé par la France. Tout simplement volé par la France, et le sarcophage de la reine Hélène est au Louvre. Pillé par les Français. Et c'est pas une plaisanterie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en français le tombeau des rois. Kivré Amelachim en face de Shar Shrem. Il y a là-bas un mitram énorme qui s'appelle le tombeau des rois. Vous pouvez regarder sur internet, le tombeau des rois. Et il y a un mitram énorme qui a été spoilé par la France, par une affaire sordide, puisque le terrain a été acheté, et on a l'acte de vente aux Ottomans par une juive mécène qui l'a redonné à la communauté juive. Et le problème, c'est que comme c'était une juive, elle ne pouvait pas acheter directement aux Ottomans. Il fallait passer par un tiers. Le tiers, c'était un Français qui s'est tout simplement approprié la vente. Tout ceci, je vous invite à le retrouver dans le roman de mon ami Chaim Berkovitch, qui s'appelle Le Tombeau des Rois. Il a mené l'affaire de manière très profonde, puisqu'il a même porté plainte contre la France. Et la haute cour de justice en France vient de rendre le premier verdict, et il a gagné, que l'affaire était jugeable. Parce que la France voulait dire, non, c'est pas jugeable, c'est à nous, point, on n'en parle plus. Eh bien, le tribunal de grande instance de France a jugé que l'affaire était, oui, jugeable. Et donc maintenant, il s'agit de combat avec des avocats. C'est l'avocat William Goldanel qui s'occupe de l'histoire pour faire récupérer la légitimité du tombeau des rois aux mains du peuple juif, puisqu'il a été acheté pour être expressément redonné au Hekdesh, c'est-à-dire à la communauté juive en Eretz Israël. Pour ce qui est du sarcophage de la reine Hélène, c'est encore une autre histoire, ça sera une autre plainte certainement, parce qu'elle est pour l'instant au Louvre, et bon, si le Louvre devait rendre toutes les pièces qu'ils ont volées aux civilisations, voilà, il n'y aurait plus grand-chose dans le musée. Mais ça, c'est un autre problème. Donc tout ça pour vous dire que voilà, la reine Hélène, elle était l'exemple, un des exemples, de Urechokim Yavo. Et voilà, on s'arrête là pour les marot de Zecharia. Et la prochaine fois, on va commencer par une question. Une question qui va être posée au Navi, qui va lui falloir deux chapitres entiers pour y répondre. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions ?
Razak Oubaoukhetan, avant de les questions, est-ce que pour ceux qui habitent Jérusalem, est-ce que tu peux donner ton programme de la veillée de Shavuot?
Alors tout à fait.
Il faudrait se joindre en vrai.
Tout à fait. À 11h, en hébreu, dans ma synagogue, Rechov Yehoshua Bin Nun 36, à Katamon. Ensuite, à minuit 5, 10, en français, à la synagogue de Emouna du Rav Ben Ishai. Ensuite, normalement, pour une durée de 25 minutes, un mini cours à la synagogue Oel Shalom Rechov Gidon à 1h15. Ensuite, pour les hommes, à 2h10, en vieille ville, dans la yeshiva des Mekoubalim de Bethel, avec le Machon Meir, c'est ouvert aux hommes. Et ensuite, à 3h30, aux femmes, dans le Merkaz Asfaradi, avec les filles de Chemdat Adarom, mais c'est ouvert aux autres femmes également.
Merci beaucoup, Ethan. S'il y a des questions, des remarques, vous pouvez ouvrir les micros.
Recording stopped.
Bon.
Merci, Ethan.
Chazak Oubarouk, mes amis. Kol Tov.
Kol Tov.